Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. C'est dans un jardin exceptionnel que nous allons nous promener ensemble, le jardin de Léonard. Il s'agit bien sûr de Léonard de Vinci, ce maître que François Ier appelait son premier peintre, ingénieur et architecte, et qui, le faisant venir en France en 1517, le fit installer au château du Clou, près d'Amboise, un château aujourd'hui appelé le Clos Lucé, et c'est le maître des lieux, François Saint-Brice, qui déjà dans une première émission nous avait guidés dans les appartements du Clos Lucé, qui se fait aujourd'hui notre accompagnateur pour découvrir ce jardin de Léonard. François Saint-Brice, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'inaugurer le 6 juin 2008 dans le parc de votre propriété, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci. Ce jardin de Léonard, est-ce un simple jardin dédié à la mémoire de Léonard ou est-ce un jardin vraiment extraordinaire?
Je pense que c'est à la fois effectivement un simple jardin, le jardin de Léonard, mais il est extraordinaire à différents égards. D'abord, c'est un nouvel espace culturel qui a été ouvert dans l'enceinte même du parc Leonardo da Vinci, dans ce parc paysager. En fait, il s'agit d'un espace naturel préservé dans un écosystème existant, un écosystème marécageux tel que l'on voit beaucoup au bord de Loire, entre terre et eau, une zone humide caractéristique du Val de Loire et de l'espace ligérien. Et donc sur plus d'un hectare, au pied des fortifications, cet espace marécageux existait, mais il était parfaitement abandonné. Et en fait, nous l'avons réhabilité, réaménagé, pour y recréer l'ambiance magique des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, réalisés à partir de ses tableaux, dessins et croquis. Donc, en fait, il s'agit d'une promenade culturelle et initiatique dans les pas de Léonard de Vinci, dans un nouveau jardin, un jardin qu'on pourrait qualifier de jardin d'eau, puisqu'il est autour d'un espace de promenade autour d'un marais, traversé par un pont à double travée, un pont environnemental que Léonard avait dessiné à Milan. Et donc, c'est un pont qui fait 20 mètres de long et qui est à deux étages, l'un pour les piétons, l'autre pour les carrosses et les chevaux. Et donc, qui permet de franchir cet espace à la fois d'eau et cet espace végétal et d'avoir des points de vue en hauteur sur ce jardin. Alors, ce jardin est animé par des grottes, des cascades, des brumes mystérieuses, des îles qui ont été aménagées pour les oiseaux migrateurs, avec des zones de nidification. Donc on y voit à la fois un biotope extraordinaire, un biotope tout à fait naturel, mais aussi des oiseaux migrateurs qui ont élu cet endroit comme étant un petit paradis, qui nidifie. Il y a les petits, et puis aussi vous avez des truites d'eau vive qui donc sont dans cette eau absolument transparente et qui trouvent leur alimentation avec les libellules, les moustiques, etc. Donc c'est vraiment un lieu paradisiaque, mais un lieu tout à fait naturel, qui est peuplé de semi-naturel.
Il faut dire que Léonard de Vinci était passionné par la nature, n'est-ce pas? Parce qu'on voit toujours la peinture dans ses œuvres, mais dans ses œuvres même, quand on regarde en détail, on voit toujours des fonds, des paysages, des arbres, des feuilles. Et alors dans ses croquis, dans d'autres, vous avez découvert d'autres documents aussi où il aime la nature et on voit sa passion pour la nature?
Absolument. Alors ce projet de jardin a nécessité 3 ans de travail et effectivement nous avons fait des études scientifiques et des études documentaires très importantes pour analyser et donc identifier dans les dessins, croquis et peintures de Léonard toutes les plantes. Donc en fait c'est un herbier, si je puis dire, de près de 350 plantes, nous en avons identifié 30 qui pourraient se plaire dans ce jardin et nous les avons donc
replantées.
Voilà, et donc dans cet écrin de verdure autour de ce jardin d'eau. Et donc chaque plante est identifiée avec un cartel botanique. Et aussi, nous avons 7 thèmes donc pour ce parcours. Sur le thème, par exemple, de eau et tourbillon, symbole et allégorie, arbre. Et donc, toutes ces plantes sont reproduites soit en lave émaillée sur des cartels, donc en couleur, avec un texte en français, anglais, espagnol et allemand, mais aussi toujours une citation de Léonard sur la nature, parce que Léonard était philosophe et que la nature l'a toujours inspiré. Et donc, on découvre au gré de cette promenade, dans les pas de Léonard, toutes ces plantes, tout cet herbier, et bien de ces plantes existaient. Par exemple, nous avons des aulnes, des dessins d'aulnes, mais qui existent dans le marais. On les voit comme si Léonard les avait croqués d'après nature. Et ils sont là. Donc ça a été les petites surprises de cette recherche. C'est que déjà, par exemple, nous avons un bosquet que Léonard a dessiné. Il est en possession de la reine dans sa collection de la Bibliothèque royale de Windsor. Ce bosquet, nous l'avons retaillé. Il est là, comme si Léonard venait juste de le croquer.
C'est magnifique. Alors, ça a exigé, évidemment, d'avoir une grande connaissance des œuvres de Léonard, pas seulement ses œuvres peintes, parce qu'on sait, on les connaît, mais enfin, il y a aussi tous les croquis, tous les écrits, les dessins, les travaux, les esquisses. Enfin, il a fait beaucoup. Il a publié beaucoup, enfin pas publié, mais écrit beaucoup. Donc vous avez fait une grande recherche, vous vous êtes entouré de spécialistes.
Oui, bien sûr. Bon, c'est une recherche documentaire, iconographique et scientifique, et que nous avons fait en partenariat avec les grands experts de Léonard, dont notamment Carlo Pedretti, qui est certainement le plus grand expert vivant de Léonard et qui partage son temps entre la fondation Hammer à Los Angeles et donc sa maison en Toscane, ainsi que Pietro Marani, qui est donc professeur d'art moderne, mais qui est aussi l'un des plus grands spécialistes de Léonard et qui anime la bibliothèque léonardienne au château Sforzesco à Milan, qui nous a bien sûr aidés. Alessandro Vesosi, qui est un expert vincien, qui a un musée de Léonard à Vinci et nous a aussi aidé dans l'identification de toutes ces plantes. Et à partir de là, bon, nous avons travaillé avec un architecte paysagiste.
Oui, il faut dire son nom parce que
Olivier van der Winck.
C'est une œuvre aussi qu'il a
faite. Oui, absolument. Et donc ce projet qui a été conduit avec Olivier van der Winck, architecte paysagiste,
et une vingtaine d'entreprises,
était un projet réellement où nous avons toujours privilégié, disons, l'approche de la nature, et nous avons toujours travaillé dans cet espace existant en respectant la nature. Ça a été d'ailleurs le fond de notre démarche. On peut dire que c'est un projet de développement culturel durable en milieu naturel. Le jardin de Léonard a été conçu et réalisé dans une démarche de respect de l'environnement et de la valorisation du biotope et de l'écosystème. Nous avons considéré que ce site naturel devait être protégé comme un conservatoire végétal pour préserver la biodiversité. Alors, quelques exemples. Nous avons donc travaillé tout au long de ce projet pour que le site intègre, par exemple, un réseau de récupération des eaux pluviales à partir des gouttières du château et des bâtiments. Ces gouttières, lorsque il y a des orages, alimentent le marais. Nous avons créé des zones de nidification aménagées pour les oiseaux migrateurs et aujourd'hui, les oiseaux migrateurs s'y plaisent et procréent. Nous avons aussi installé des lampes de basse tension pour les éclairages nocturnes. Et donc, on peut voir ce jardin dans les nocturnes que nous ferons au mois de juillet, le 12, 13 et 14 juillet, et également le 13, 14 et 15 août. Et on peut se promener en nocturne. Les cascades sont illuminées, le pont est illuminé avec donc des lampes basse tension qui préservent l'environnement. Les bois sont des bois non traités pour les ouvrages en charpente, des compagnons du devoir. Enfin, disons qu'on peut dire que c'est un sanctuaire pour les espaces animaux menacés comme les tritons, que nous avons des tritons qui sont là, et des salamandres.
L'animal
de François Ier. Et bien sûr, les truites qui naviguent dans une eau pure et glacée. Et
qui ont l'air de s'y plaire. Alors, il faut aussi parler, François Saint-Brice, de l'exposition qui accompagne ce jardin, qui s'appelle « Nature et paysage, selon le regard de Léonard de Vinci ». Alors, que présente cette exposition ?
Alors, l'exposition « Nature et paysage », qui est consacrée au regard de Léonard de Vinci sur la nature, complète très bien le nouveau jardin. Elle est présentée dans une halle industrielle dans le domaine, une halle Eiffel, dite Eiffel, et elle révèle par une présentation simple et claire l'histoire de la passion et de l'amour de Léonard pour la nature. Alors vous savez que Léonard accorde une place centrale à la nature, qui est au cœur de ses écrits et de ses recherches, et même de ses travaux scientifiques. Elle participe à sa vision du monde, et à travers l'étude des plantes, des fleurs, mais aussi des roches, et de l'eau vive, c'est le mystère même de la vie que Léonard traque, car il considère que le microcosme, l'homme, et le macrocosme, l'univers, procèdent d'un même élan vital. Alors, Léonard disait, en observant la nature, que tout était là. Alors, dans cette exposition, on voit des détails d'une centaine d'œuvres peintes et dessins.
C'est agrandi, magnifié.
Donc, les détails des différentes peintures, comme une des plus célèbres, bien sûr, l'Annonciation, qui est à la Galerie des Offices, avec ses fonds de montagne, mais aussi ses fonds de pins et de d'ifs topières, donc sont agrandis. On comprend aussi le travail de Léonard dans ses différents ateliers, l'atelier de Verrocchio, où il a appris à donc dessiner auprès de son maître, mais aussi les développements à partir de la nature qu'il a expérimenté dans son propre atelier. Tout ça est expliqué donc dans cette exposition. Et comme le disait fort justement Pietro Marani, Léonard de Vinci, par son attitude très moderne d'étudier la nature, est par excellence un personnage de transition entre l'homme médiéval et l'homme moderne.
Mais il faut comprendre en effet, et cette exposition sans doute le permet, d'entrer dans la démarche intellectuelle, métaphysique, presque spirituelle même, on pourrait dire, de Léonard. Et justement, le professeur Marani dit « Pour Léonard, le monde est en constante interaction. Ces différents éléments ne cessent de s'influer les uns sur les autres selon des principes qu'il cherche inlassablement à élucider. La montagne transformée par l'eau, le paysage changé par la forme des montagnes, le soleil qui décide la croissance des plantes, et l'homme participe pleinement à cet ordre des choses. » À l'époque, tous les auteurs humanistes ne se réfèrent à la nature qu'à partir des textes de la culture classique et médiévale, et Léonard, lui, fait abstraction de ce savoir livresque pour étudier la nature avec ses yeux et l'éclairer de ses expériences. Et on comprend donc bien que la démarche métaphysique et philosophique, c'est de resituer l'homme dans la nature. En ce sens, c'est un véritable pionnier de l'écologie.
Oui, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites là, parce que Léonard déjà a inventé, si on peut dire, le développement durable. Mais le développement durable existait bien avant notre décennie que nous vivons aujourd'hui. Je pense que Léonard avait compris que la nature avait sa propre signification. D'ailleurs, dans l'une des exposés de notre table ronde que nous avons organisée au Clos Lucé autour du thème Léonard et la nature, l'un des spécialistes, Fridtjof Capra, qui est donc un scientifique, professeur à l'université de Berkeley, nous disait que Léonard avait initié l'écologie profonde. Alors, l'écologie profonde, quand Fridtjof Capra a étudié les écrits de Léonard sur la nature, il y a consacré un livre, il est resté absolument abasourdi devant une citation. Cette citation disait que la nature a, disons, sa propre existence et n'a pas attendu que les hommes puissent la décrire pour avoir une raison en soi, que les arbres avaient leur propre nécessité. Plus tard, sous Descartes pensait que la nature devait être exploitée. Par exemple, on coupait les arbres pour faire du feu, etc. Mais Léonard respectait la nature profondément. Et on peut dire en cela qu'il était à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie profonde, c'est-à-dire que les arbres, les plantes et les fleurs, les rochers ont leur propre raison en soi et n'ont pas attendu l'homme pour être utile à l'univers.
Absolument. En tout cas, on découvre grâce à cette exposition, grâce à ce jardin, combien Léonard a été pionnier dans beaucoup de disciplines assez contemporaines, largement. Par exemple, la botanique, la géologie, la physique. Il a été l'un des premiers à s'intéresser au rôle du soleil sur la croissance des plantes, en effet. Et donc, le premier à concevoir aussi des principes de temps géologique dans la formation de la Terre. Il avait déjà aussi cette notion. Le premier à comprendre les mécanismes de formation des courants et des tourbillons. Ça, c'est sa passion pour l'eau que vous avez donc si bien retranscrite ou représentée dans ce jardin, si je comprends bien, qu'on peut voir donc avec des brumes, ce pont magnifique. Vous devriez reparler de ce pont qui a nécessité tant de travail de la part des compagnons du devoir.
Alors oui, ce pont environnemental qui est un pont à double travée, à deux niveaux, est tout à fait intéressant parce qu'il a été construit selon les règles d'or de la Renaissance. Vous savez que Léonard s'intéressait beaucoup à la mathématique, qu'il avait beaucoup appris avec Pacioli, qui était un mathématicien qui avait étudié les formes géométriques, les polygones, les octogones. Et donc ce pont est très intéressant parce que la façon dont il est construit fait appel donc aux règles d'or de la Renaissance, mais aussi aux règles de l'harmonie. Et lorsque nous avons construit ce pont, bon, effectivement, au départ, nous pensions qu'il était peut-être trop haut, trop tassé, et on a fait beaucoup de simulations avec des fils tendus, de façon à bien respecter l'esprit même de Léonard, et en plus que ce pont s'intègre dans cet environnement, dans cet espace paysager d'un hectare. Et aujourd'hui, l'une de nos satisfactions, c'est de voir que le travail réalisé par ces compagnons du devoir, ils étaient une quinzaine, ils ont travaillé près de 3600 heures. Ils ont utilisé les matériaux de l'époque, du chêne, les tuiles du toit du pont sont en châtaignier, donc qui vient des Vosges. Eh bien, ce pont est un pont qui s'intègre complètement dans le paysage et ils ont travaillé avec les matériaux de l'époque. Alors, ce qui est bien avec les ponts, c'est qu'on a envie de les franchir.
C'est fait pour ça.
On pense à tous les jardins, disons, mythiques, hein, les jardins emblématiques, celui de Giverny, bien entendu, avec le pont de Monet.
Donc François Saint-Brice, si on va s'immerger dans cette nature magnifique que vous avez pu reconstituer dans ce jardin de Léonard, si on va voir cette exposition sur Léonard et la nature, on a, je crois, un nouveau portrait. Pas si nouveau quand on connaît Léonard, mais tout de même on découvre un Léonard beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus génial finalement, à la fois peintre, mais aussi ingénieur, architecte, écologiste, géologue, botaniste, enfin un vrai génie de la Renaissance.
Oui, Léonard et la nature, c'est un aspect que, disons, qui est un peu sous-jacent à Léonard, mais qui est, à notre avis, primordial. Parce que, bien sûr, tout le monde connaît le Léonard peintre, le peintre de la Joconde. Tout le monde connaît Léonard ingénieur, celui qui a inventé l'hélice volante, l'hélicoptère, le char d'assaut. Mais on connaît moins son rapport avec la nature et l'environnement. Et en fait, aujourd'hui, l'environnement est au cœur de nos préoccupations parce qu'elle est au cœur de la préoccupation de l'homme, c'est vital. Et Léonard, lui, lorsqu'il était enfant, a tout appris de la nature. Ça a été son maître. Il a été certainement l'un des plus talentueux élèves de la nature. Il a tout inventé en observant la nature. Et ensuite, son travail d'artiste ou de scientifique a été inspiré par la nature, puisque à chaque fois qu'il étudie, il met en parallèle la symbolique, des analogies, des allégories, et la nature est son guide. Et la nature est à la fois le début et la fin chez Léonard, est une fin en soi. Et c'est certainement, disons, l'artiste qui l'a le mieux représenté. On pense aux sfumato, aux ombres et lumières, et qui l'ont profondément inspiré. Et donc, aujourd'hui, c'est cet aspect de Léonard que nous proposons au grand public de découvrir au château du Clos-Lucé.
Mais au château du Clos-Lucé, vous organisez des expositions tous les ans. Il y en avait une sur la Joconde. Cette année, c'est la nature. L'année prochaine, on peut savoir?
Oui, alors en fait, l'an prochain, nous voudrions consacrer une exposition sur Léonard de Vinci et la France. Léonard de Vinci et la France, pourquoi? Parce que Comme vous le savez, il a passé les trois dernières années de sa vie en France, invité par le roi François Ier, et il s'est éteint au Clos Lucé. Mais Léonard de Vinci et la France, c'est une relation qu'il avait déjà initiée 3 ans avant, lorsqu'il travaillait pour Charles d'Amboise. Charles d'Amboise était, comme vous le savez, gouverneur de Milan au moment où Louis XII avait fait sa première guerre d'Italie. Et Louis XII avait déjà proposé à Léonard de venir en France. Et à l'époque, Léonard, qui travaillait pour un mécène, avait décliné l'offre. Mais il n'a pas décliné celle que lui a faite le successeur de Louis XII, François Ier. Et donc, il est venu en France. Donc, il a travaillé pour Charles d'Amboise et déjà sur des projets tout à fait intéressants. Et c'est cette période de 6 ans que nous allons couvrir. Et nous allons travailler avec Carlo Pedretti, qui est certainement le plus éminent expert en la matière, qui connaît Léonard, qui est un homme qui a 82 ans, qui a consacré plus de 50 ans à Léonard, qui a publié 50 ouvrages, 500 publications. Et quand on lui demande « Où est-ce que vous en êtes de vos études sur Léonard ? Est-ce que vous avez du tout trouvé ?» Il répond sur un ton tout à fait modeste « Je ne fais que commencer. »
Merci François Saint-Brice. En tout cas, je ne saurais que vous encourager à vous rendre au château du Clos Lucé, dans le parc Leonardo da Vinci. C'est à côté d'Amboise, dans le département Indre-et-Loire.
Oui, au cœur du Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'humanité.
Merci infiniment.
Merci.